Bienvenue à toutes et à tous, Esprit Occitanie, votre émission Sentinelle d'Humanité. À la technique et à la réalisation, mon vieux complice Léo et votre serviteur André Satenza. Mon invité aujourd'hui, en direct du studio Gisèle Halimi, Madame Flora Bastiani, philosophe, professeure à l'Université Jean Jaurès, habilitée à diriger des recherches, c'est ce qui se fait de mieux quand même à l'université. Vous êtes spécialiste de la pensée d'Emmanuel Lévinas et vous venez de publier un ouvrage important, une robuste, pourrait-on dire, analyse sur la problématique de la santé, mais on va aller plus loin. C'est un ouvrage d'une grande humanité, philosophie du soin critique, penser la relation en réanimation, en soins intensifs et dans les prélèvements d'organes, aux éditions Le Cercle Herméneutique. Madame Bastiani, soyez la bienvenue.
Merci beaucoup.
Alors, vous proposez une analyse théorique. La théorie, c'est très documenté. Gros travail universitaire, On passe Ricoeur, Lévinas, Jankélévitch et bien d'autres. On voit bien que vous êtes la spécialiste de Lévinas, on voit bien un dialogue avec, peut-être, je ne sais pas s'il faut le considérer comme votre maître, peut-être, et vous développez la relation du soin critique, et puis vous analysez, vous inventez. Moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut le dire. Vous inventez un concept inédit, le phénomène de l'ensemble. Donc, Madame Bastiani, peut-être faut-il commencer par le commencement. Comment est né ce livre ? C'est-à-dire, vous vous levez un matin, vous dites, il faut que je m'occupe de la santé en particulier. Ce sont des rencontres avec d'autres philosophes, des étudiants, des médecins. Dites-nous comment naît un livre, et notamment celui-ci.
Ah oui, alors c'est un projet ancien, à vrai dire. Donc, comme vous l'avez dit, je suis spécialiste d'Emmanuel Lévinas. J'avais consacré ma thèse de doctorat en 2009, il y a bien longtemps maintenant. Et par la suite, j'ai travaillé avec, après ma soutenance et pendant que je commençais mon travail académique, j'ai un collègue de sciences de l'éducation, Michel Fournet, qui a été atteint de SLA. Et dans cette période, il a été hospitalisé au service soins palliatifs du CHU de Toulouse. Et ça a permis qu'avec d'autres collègues, on ait un lien avec ce milieu et puis cet événement d'avoir ce collègue qui souffrait de SLA et qui est par la suite décédé. Ça nous a ouvert à cette réflexion sur la santé et je trouvais qu'il y avait un écho particulier dans les concepts de Lévinas qui permettait d'aborder sous un angle réflexif cette situation. Et puis mes collègues à ce moment-là, deux autres collègues, ont aussi eu le sentiment qu'on pouvait travailler ça dans la recherche. Donc, on a créé à ce moment-là un séminaire de recherche, de travail sur les soins palliatifs. Donc ça, c'était il y a longtemps. On a publié un ouvrage en 2013. Et puis, depuis ce moment-là, je me suis intéressée au thème de la santé, en lien avec, on a parlé de Lévinas, mais à vrai dire, je suis phénoménologue, ce qui est une branche de la philosophie. Qui consiste,
et pas des plus simples.
Oui, qui est né avec Husserl et qui consiste à s'intéresser aux phénomènes, c'est-à-dire à l'expérience de la perception. Et donc, à partir de cette culture qui est la mienne, je m'intéressais à la question de la santé. J'ai beaucoup lu la littérature qui existait déjà à ce propos. Mais j'y trouvais pas ce que je cherchais. C'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, en fait. C'est pour donner la première place aux soignants, et en particulier aux infirmiers, et pas à la théorie. C'est-à-dire que quand on écrit un livre de philosophie, souvent on commence par proposer les concepts et par ensuite les étayer, soit avec des situations, soit avec une argumentation. Mais en tout cas, on part souvent des concepts. Et moi, ce que j'ai souhaité faire, c'est l'inverse, c'est-à-dire partir de l'observation, partir de la parole des soignants, et puiser les concepts dans leurs paroles, dans leurs discours, en les analysant.
Et dans votre livre, vous proposez 4 cas.
Oui.
Alors, soins intensifs, soins en service de réanimation pédiatrique.
Oui.
Voilà, c'est frappant, quand on parle des enfants, on est de suite affecté.
Oui.
Et puis, assez singulier, les prélèvements d'organes. Là, j'ai appris quand même quelque chose, c'est que le cadavre ou le patient, c'est quand même un patient, il y a du soin, il y a une relation.
Ah oui, absolument.
Assez particulière. On va revenir, mais vous avez dit qu'en effet, c'est la phénoménologie. Et d'entrée de jeu, vous le dites dans votre introduction, qui est une introduction
longue,
profonde. Voilà, on passe en revue. Ah, vous le dites à la page 11, là, originalité de l'analyse phénoménologique d'inspiration husserlienne, bien entendu, amena une réflexion à partir des vécus doxiques. Donc, vous vous occupez bien de la perception des phénomènes, mm-hmm. et non pas des noumènes, comme disent les pas la chose en soi, mais le phénomène, ce que l'on voit.
Oui.
Et alors, en quoi cette expérience de la pensée est singulière, comme vous dites. Pourquoi c'est assez singulier? Parce qu'il y a une relation entre le soigné et le soignant, parce que vous observez une relation singulière entre ces deux personnes qui se regardent et qui se touchent parfois, parce que le soignant touche le soigné. Quoi.
Ah oui, ça c'est sûr, même plus que toucher, enfin on pourra y revenir, mais en fait les soins critiques, puisque ce livre est dédié pas aux soins en général, mais aux soins critiques, c'est des services dans lesquels les patients sont tenus en vie par le soin. C'est-à-dire que si on ne les soignait pas, si on n'utilisait pas des machines pour les maintenir en vie, ils mourraient. Donc c'est une situation particulière qui n'est pas celle de tous les services de santé. Et donc votre question, excusez-moi.
Oui, l'originalité de la phénoménologie. Quoi.
Ah oui,
vous dites, je suis phénoménologue, alors vous occupez de la phénoménologie.
Ah oui.
On pouvait attendre la phénoménologie, mais pas là, pas dans ce rendez-vous.
Ah oui,
c'est
oui,
ça, tout qui me semble original.
En fait, dans la phrase que vous avez lue, tout y est. C'est-à-dire que donc Husserl dit maintenant, il faut donner de la valeur aux vécus doxiques. Les vécus doxiques, c'est quoi? C'est en fait les vécus de tous les jours. C'est l'expérience qu'on peut faire quotidiennement. Et en fait, Husserl ouvre cette voie en disant philosopher, ça implique pas forcément de s'intéresser à des expériences exceptionnelles, des cas particuliers. Mais c'est aussi réfléchir à l'expérience qu'on peut faire au quotidien, donc l'expérience de tous les jours. Et en fait, en abordant ce projet, j'avais pour idée d'analyser le temps dans le soin. Et finalement, c'est pas du tout, comme vous l'avez pu le voir, c'est pas du tout ce que ça donne. C'est-à-dire que le seul présupposé que j'avais en abordant ces entretiens avec des infirmiers, c'était... probablement que la question du temps va ressortir. Je m'étais dit ça. Et puis finalement...
Enfin, le temps n'apparaît pas.
Oui, enfin, parfois, mais ce n'est pas du tout le cœur de l'analyse. Effectivement, c'est plutôt marginal, finalement. Mais c'était un peu cette habitude de philosophe de dire « je vais chercher un concept que j'ai déjà pensé et que je vais appliquer à cette situation ». Finalement, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé.
Alors, vous dites également, alors on parcourt votre livre avec... Il m'a marqué, hein. J'ai passé du temps, et il a fallu que j'aille moi-même revisiter mes classiques. Également, vous dites à la page 19, soigner signifie toujours soigner à sa façon.
Mm-hmm. Oui.
Alors qu'on pourrait dire que dans le soin, il y a des protocoles.
Absolument.
Tout était écrit, vous ne pouvez pas faire, quand vous êtes en cardiologie, il n'y a pas plus protocolisé que la cardiologie.
Exactement.
Si vous êtes vous avez malheureusement un cancer, alors là, protocole, c'est les protocoles. Et là, vous dites non, il y a une phase, c'est singulier.
Oui, oui, oui.
Chaque soignant fait quelque chose de différent.
C'est très important pour moi cette notion-là, parce que, en fait, c'est le cœur de mon idée de phénomène de l'ensemble, hein, ce que vous évoquez là. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des connaissances qui permettent de soigner, un ensemble de connaissances, un ensemble de pratiques qui sont enseignées, qui sont transmissibles. Mais finalement, le soin comme acte de soin, c'est la manière que chaque soignant va avoir d'entrer au contact avec ce patient. C'est-à-dire que je l'ai comparé à une partition qu'on lit tous de la... Enfin, elle est écrite pour tous les musiciens de la même manière, mais chaque musicien va l'interpréter à sa façon. Et donc, c'est la même base pour tous, mais c'est une interprétation différente pour chacun. Et alors, il y a le soignant qui soigne à sa façon, mais il soigne à sa façon aussi dans cette rencontre-là, particulière, qui est exceptionnelle, enfin, je veux dire, qui va jamais se reproduire comme telle.
Le soigner est une véritable pratique de l'altérité, là. Là, c'est la rencontre avec autrui, hein, où là, vous le dites, hein,
mais,
au cours de vos pages. C'est...
Oui, mais en même temps, c'est pas forcément ce à quoi on pense tout de suite à propos des soins critiques. Et c'est pour ça que je me suis orientée sur les soins critiques. C'est que dans la théorie, dans ce qui est déjà écrit sur les soins, il m'a semblé que ça ne s'appliquait pas, enfin que les concepts qui étaient apportés, comme dans les théories du care par exemple, ne marchaient pas avec les soins critiques, parce que pour un seul des quatre cas, le patient est éveillé, mais pour les trois autres, dans deux cas, il est dans un coma induit, et dans le dernier cas, il est décédé. Donc là, on peut pas. Donc, il y a une mise à l'épreuve, en fait, de ce qu'est la relation dans le soin. C'est-à-dire que l'acte de soin, pour moi, est une entrée en relation, une entrée en contact, qui fait émerger une manière de soigner singulière, mais qui dépend pas forcément d'un dialogue, par exemple.
Est-ce que les soignants sont formés à cette analyse aujourd'hui dans les écoles d'infirmiers ou chez les internes, les médecins, les spécialités? J'ai l'impression qu'on délaisse globalement les humanités. Peut-être qu'il y a un retour des humanités.
En fait, ça
dépend. On disait à l'époque médecin philosophe, me semble-t-il.
Oui, 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 c'est vrai. Souvent,
est-ce qu'aujourd'hui, ce sont des médecins tout court, des techniciens médecins, ou est-ce qu'il y a déjà le début d'une nouvelle philosophie des médecins au XXIe siècle?
Alors, pour tout dire, donc, j'évoquais tout à l'heure la rencontre que j'ai pu faire avec certains soignants. En fait, ça dépend, je vous dirais, dans la formation, il y a toujours une partie humanité, mais selon les facultés, elle est plus ou moins importante, on lui donne plus ou moins de poids. Et après, chez les soignants eux-mêmes, les médecins, les médecins de soins critiques, je vais parler de ceux-là parce que c'est ceux avec lesquels je suis le plus en relation, il y a vraiment une réflexion, il y a vraiment une recherche de compréhension, d'analyse. Ils apprécient quand même qu'il y a un travail d'analyse. Ils sont tous, souvent inscrits dans des comités d'éthique, qui sont des lieux de réflexion aussi. Les comités d'éthique hospitaliers ou les comités
d'éthique... Vous dirigez un master d'éthique.
Eh oui, c'est vrai.
Alors, est-ce que les médecins viennent et s'inscrivent?
Il y a des médecins qui viennent. Tout à fait. Il y a des médecins, il y a des infirmiers, pardon, parce que... J'étais en train de parler des médecins comme si c'était
oui, ou des soignants
central, mais
générale,
en fait
oui,
et bien sûr chez les infirmiers il y a aussi cette recherche de réflexion, de prendre du recul par rapport à ce qu'on fait dans le quotidien, essayer de le regarder avec plus de distance pour comprendre certaines choses, parce que c'est un vécu difficile, hein, souvent dans les services de soins critiques. Il y a l'intensité du soin. Et puis, il y a le nombre de situations complexes auxquelles on peut être confronté, qui atteignent forcément, à titre personnel, les soignants. Hein. C'est aussi ce dont parle ce livre.
Alors, comment, à page 30, vous dites une alliance thérapeutique entre le soignant et la personne soignée. Mm-hmm. C'est assez paradoxal, parce que comment faire alliance quand la personne en soins critiques est dans le coma, ou c'est le cadavre ou le défunt, alors là, comment fait-on alliance?
C'est tout le problème, oui, des soins critiques, hein, finalement, c'est tout le problème, c'est toute la question. Et c'est pour ça que la relation telle que j'en parle, c'est pas simplement une relation qui s'inscrit dans ce qu'on pourrait appeler un face-à-face, si on se référait à Lévinas, pour le coup. Ça suffit pas de penser que la relation de soins, c'est toujours dans le face-à-face. Ça ne marche pas avec ces services de soins. Donc, c'est une relation qui se construit aussi dans la technique. C'est ça qui m'intéressait dans le fait de prendre les soins critiques comme objet, c'est que c'est les services dans lesquels la technique est la plus présente et la plus importante, et dans laquelle donc il faut se représenter un service de soins critiques, c'est un service où il y a beaucoup de machines, de tout ordre, des machines extrêmement difficiles à utiliser. Il y a du bruit, il peut y avoir. Il y a du bruit, la personne est sédatée, donc souvent elle ne s'exprime pas, elle n'est pas en capacité de le faire. Par exemple, pour les cas de réanimation, il faut penser que c'est pas une chambre, en fait, dans laquelle les patients sont hospitalisés, c'est un box dans lequel il n'y a pas de porte qui ferme vraiment, les murs sont, enfin, l'accès est permanent, il y a des vitres.
Pour les soignants, bien entendu. La question de l'intimité
pour permettre de surveiller.
Pour aller très très vite.
Mais c'est aussi le cas, en fait, dans les soins intensifs. Hein, la description du service soins intensifs, c'est un service très ouvert, parce que, encore une fois, chaque patient qui est hospitalisé dans ces services, même si pour les soins intensifs, il ne le ressent pas toujours, il est entre la vie et la mort, il est tenu dans la vie par les soignants. Et donc, c'est des services hautement techniques où les infirmiers ont des compétences techniques très, très hautes hein, dont ils doivent s'imprégner, en fait, quand ils rentrent dans ce type de service. Non seulement les machines, mais aussi l'usage des substances, qui est très particulier et qui n'est pas du tout commun avec les services de soins traditionnels.
Il y a beaucoup de molécules, j'imagine, alors des produits qui très, très vite... Si on pousse la seringue, j'emploie ce terme parce que il n'est pas de moi. Les infirmiers disent parfois on peut pousser la seringue, ça peut mal se passer, quoi. Oui. C'est-à-dire le geste fatal peut arriver, quoi.
Et puis, alors on a le sentiment que c'est une science, la médecine, mais en réalité c'est un art aussi. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on administre une substance, il faut, et c'est le rôle de l'infirmier dans les services de soins critiques, il faut observer attentivement les réactions du patient, essayer de se rendre compte si ce dosage lui convient ou pas.
Et puis ça va très vite.
Hein. Et oui, donc c'est vraiment un rôle crucial.
Le dosage de la morphine, par exemple, mm-hmm. contre la douleur, ou la nausée, mm-hmm. une substance, c'est parfois quelques secondes. Vous voyez la réaction du corps.
Voilà.
Et là, le corps qui est blanc, tout d'un coup, il devient un peu plus rouge. Vous le dites d'ailleurs.
Hein, oui, c'est une observation continue. Des signes qui ne nous semblent pas être des signes, mais qui, pour l'infirmière, deviennent des signes, des défaillances.
Des organes,
tout à fait.
Et donc là, se pose la question, vous le dites, hein, sur la question, page 44, sur la question de la norme, quoi.
Oui.
C'est-à-dire, alors vous, un des grands, c'est Georges Canguilhem, bien sûr, le normal et le pathologique.
Oui.
Et vous dites, oui, alors là, c'est quoi? Qu'est-ce qui est normal pour ces personnes? Est-ce qu'on est dans la norme?
Oui.
On est dans la norme du patient, qui se trouve dans cette situation. C'est-à-dire, on analyse aussi, je veux dire, toutes les observations de malades qui sont dans le coma. On observe également, pourrait-on dire, peut-être des constantes, c'est ça?
Oui, alors il y a la question des constantes, mais c'est justement, précisément, vous mettez le doigt sur ce que critique Canguilhem.
Ah ben oui.
C'est-à-dire que oui, il y a les constantes, mais... tel dosage convient en principe pour plonger dans un coma de tel degré, parce qu'il y a plusieurs degrés de coma. Mais avec ce patient, si je l'observe bien, je vois si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. Et c'est là qu'on voit la mise à l'épreuve des connaissances médicales dans une situation particulière. C'est-à-dire que le patient ne répond pas forcément à un traitement comme tous les autres patients. Donc finalement, il a sa propre norme physiologique et il faut s'y adapter.
Écoutez, avant d'aller plus loin, et puis surtout sur la question qui va revenir de suite, après cette pause musicale, comment peut-on vivre avec sa maladie? Je vous propose de prendre un peu l'air et peut-être un appel au beau temps qui arrive, Paris au mois de mai, à Aznavour.
J'aime Paris au mois de mai. Quand les bourgeons renaissent, qu'une nouvelle jeunesse s'empare de la vieille cité, qui se met à rayonner
J'aime Paris au mois de mai. Quand l'hiver le délaisse, que le soleil caresse ses vieux toits à peine éveillés. J'aime sentir sur les places, dans les rues où je passe, ce parfum de muguet que chasse le vent qui passe. Il me plaît à me promener par les rues qui se faufilent à travers toute la ville. J'aime Paris au mois de mai. J'aime le vent qui m'apporte des bruits de toutes sortes et les potins que l'on colporte de porte en porte. Il me plaît à me promener en souriant aux filles dans les rues qui fourmillent. J'aime Paris au mois de mai. J'aime Paris au mois de mai. Avec ses bouquinistes et ses aquarellistes que le printemps a ramené, comme chaque année le long des quais. J'aime Paris au mois de mai. La Seine qui l'arrose, mille petites choses que je ne pourrais expliquer. J'aime quand la nuit sévère étend la paix sur terre et que la ville soudain s'éclaire de millions de lumières. Il me plaît à me promener, contemplant les vitrines, la nuit qui me fascine. J'aime Paris.
Esprit Occitanie, sentinelle d'humanité, toujours en direct avec Madame Flora Bastiani, philosophie du soin critique, penser la relation en réanimation, en soins intensifs et dans le prélèvement d'organes. Alors nous étions dans l'analyse de cette introduction, d'une longue introduction qui appelle ensuite au cas, on va y arriver de suite. Déjà passe 50, Madame Bastiani, vous abordez la question de vivre avec sa maladie. Comment vit-on avec sa maladie quand on a une maladie chronique ou surtout quand on sort du coma? Ça doit être terrible, ça.
Ah oui, c'est vraiment une question qui est surtout abordée dans un des entretiens. Enfin, les soignants, les infirmiers se posent beaucoup la question de qu'est-ce qui va se passer
qu'est-ce
après.
Qu'est-ce qui va se passer après,
ouais. Qu'est-ce que c'est l'avenir de cette personne? Et en fait, là, je pense que ça peut être lié à la notion de norme que vous évoquiez juste avant, parce que c'est la grande question de Canguilhem, mais avant Canguilhem, la grande question de Kurt Goldstein, qui était médecin et qui travaillait avec des personnes cérébro-lésées et qui se demandait comment faire pour soigner ces personnes pour lesquelles on ne peut rien. C'est-à-dire les personnes cérébro-lésées, c'est des personnes donc, qui ont eu... qui sont dans un état de santé qui ne va pas évoluer. Et donc, à ce moment-là, il disait, mais il faudrait les aider à retrouver une inscription dans un monde dans lequel ils se sentent en confiance, où ils n'aient pas toujours un sentiment d'étrangeté, par exemple, par rapport à ce qui les entoure. Donc, retrouver une norme, c'est aussi retrouver une sensation de familiarité avec son environnement.
Et son corps également.
Et son corps, voilà. Et son environnement, c'est aussi... Oui. Et c'est pour ça que la phénoménologie, ben, je reviens sur ça, aide beaucoup, parce que c'est vraiment... les questions qu'elle pose, c'est ça, c'est qu'est-ce que c'est que percevoir? Et dans cette question, qu'est-ce que c'est que percevoir? On se pose forcément la question de son propre corps, de comment on existe dans son corps et comment on entre en relation avec son environnement. Et donc, retrouver une familiarité avec sa propre corporité, c'est parfois difficile, parce que quelqu'un qui entre, par exemple, en réanimation, ça peut être pour beaucoup de raisons. Ça peut être un accident domestique, un accident de la route, ça peut être une tentative de suicide, ça peut être une maladie, une pathologie qui a dégénéré. Mais ça modifie beaucoup le corps. Et c'est une question très présente dans l'ouvrage, parce que non seulement la pathologie ou la situation a apporté une forme de dégradation de la relation qu'on a avec son corps, c'est-à-dire on n'a plus le même corps au moment où on sort du coma ou au moment où on se retrouve en soins intensifs. Mais en plus de ça, le soin lui-même, le soin critique, a cette particularité de, entre guillemets, s'en prendre au corps. C'est-à-dire que les modalités du soin critique, que ce soit les machines, les drains, les perfusions, elles rentrent dans le corps et elles le changent et suscitent des douleurs. Il y a des pathologies, par exemple, dans lesquelles la maladie elle-même ne provoque pas de douleur, mais le traitement, oui.
Le traitement provoque la douleur.
Alors, oui.
Donc là, c'est difficile, ouais. Quoi, pour le malade. Ouais. Alors, on continue, hein, page 53, hein, parce qu'on va arriver de suite au cas. La page 53, alors là, pour la spécialiste de Lévinas, vous parlez du concept de diachronie.
Ah.
Alors là, il faut nous l'expliquer, là, parce que c'est un passage où j'ai eu quelques difficultés à vous lire.
Alors,
Bastiani.
Alors, c'est un concept effectivement tout à fait lévinassien. Et c'était mon concept guide dont je vous parlais tout à l'heure quand je vous ai dit, je suis rentrée dans cette étude en me disant que j'allais étudier le temps dans les soins. En fait, c'était avec cette notion de diachronie. Et j'ai essayé plusieurs fois et ça ne marche pas. Donc quand même, je vous en parle pour vous dire pourquoi ça ne marche pas. C'est que l'analyse de Lévinas, elle porte sur, pas sur ce qu'on vit, enfin, elle part de ce qu'on vit tous les jours, mais... elle va plus en profondeur, elle essaye, comme Husserl d'ailleurs, elle essaye de découvrir quelque chose qui se cache en dessous de notre expérience habituelle. Et donc la diachronie, c'est une manière de faire l'analyse du temps dans la relation avec autrui. C'est-à-dire que Lévinas, donc, son point central, c'est comprendre qui on est, lorsqu'on est en relation avec autrui,
avec
le sujet, qui sommes-nous dans cette relation. Et finalement, la diachronie, c'est dire « autrui n'est jamais mon contemporain. Je suis à mon présent, j'existe dans mon présent, dans le présent de ma présence, et autrui face à moi existe dans un autre temps qui n'est pas le présent de ma présence. » Et c'est comme si... ces deux temps, ces deux formes de temporalité ne pouvaient jamais se rejoindre.
Et se rencontrer.
Ouais. Et donc la rencontre tient à autre chose, qui n'est pas cette synchronie.
Et justement, pour arriver au concept que vous avez inventé, en tout cas inédit, de phénomène d'ensemble, mais vous dites, c'est pourquoi, page 61, c'est pourquoi nous tenons à articuler la notion de « entre » et celle d'ensemble. D'ailleurs, ce terme de « entre », François Julien aborde cette question. L'entre et l'écart, me semble-t-il. Hein, un petit ouvrage assez fort sympathique également. Alors, vous, qu'est-ce que vous entendez par articuler cette notion de « entre » et celle d'ensemble, ou phénomène d'ensemble?
En fait, le « entre » ici, je le puise chez un autre philosophe que j'ai beaucoup étudié, qui s'appelle Henri Maldinet. Qui est un philosophe qui s'intéresse beaucoup à la maladie psychique et aux soins de la maladie psychique. Et donc, il l'aborde aussi comme une forme d'altérité. Donc, il se pose un petit peu la même question que Lévinas. Qui sommes-nous dans la relation avec autrui? Mais en particulier, qui sommes-nous quand nous sommes atteints par une maladie psychique, par exemple? Et donc, il développe sur ça. Et ce « entre », c'est finalement, on parlait de la diachronie, c'est ce qui nous sépare. C'est-à-dire, c'est à la fois ce qui nous sépare et ce qui nous réunit. Qu'est-ce qui nous permet d'être ensemble alors qu'on existe dans des temps différents, dans des corps différents? Et finalement, que si on fait une analyse tout à fait théorique, on a le sentiment d'être plus séparé que rapproché. Et l'ensemble, c'est ce qui surpasse ça. C'est-à-dire, ce phénomène de l'ensemble, c'est... un mode de relation introduit par les soignants, enfin, c'est comme ça que je nomme un mode de relation introduit par les soignants dont j'analyse les propos. C'est un mode de relation dans lequel ils coexistent, c'est-à-dire que l'existence du patient est tellement ne tient plus qu'à un fil et il a besoin d'être soutenu à l'intérieur de sa propre existence. Et c'est comme si le soignant, par sa technique, il s'infiltre dans le corps du patient, mais il s'infiltre aussi dans l'existence du patient pour l'aider à exister encore, malgré sa pathologie, malgré son état de santé, malgré son inconscience, et même à la fin, malgré son propre décès.
Donc quatre cas, donc soins intensifs, je le rappelle, découvrir... Alors, on commence par le premier cas, découvrir l'habitude, un cas de soins en service de soins intensifs de traumatologie. Première question d'ensemble pour les quatre entretiens. Les soignants se sont ouverts, ont parlé sans trop de difficultés, vous ont parlé sans trop de difficultés, vous les avez enregistrés, vous preniez des notes.
C'était avec un enregistrement.
Comment on faisait,
oui, c'est ça, c'était avec un enregistrement. Oui. J'avais visé ces services-là en particulier parce que vraiment je voulais me concentrer sur les soins critiques. Et je voulais rencontrer...
Vous n'étiez pas voyeuse, quoi, hein, là, vous...
Ah non. Non. Et donc, ça s'est très bien passé dans la préparation, c'est-à-dire que simplement, je leur disais, racontez-moi ce que c'est que votre métier, qu'est-ce que vous faites. D'accord. Et donc, il y avait toujours une première partie où ces infirmiers commençaient par raconter ce qu'ils faisaient effectivement, c'est-à-dire... À telle heure, je fais le tour des chambres pour les pansements. À telle heure, je fais des soins de nursing. À telle autre heure, je fais les prélèvements de sang parce qu'il faut qu'à 6 heures, par exemple, le médecin ait les résultats. Ensuite, on a un staff, c'est-à-dire une réunion infirmier-médecin pour faire le point.
Dès le premier cas, oui. Elle dit, on est responsable, ça dépend de nous.
Oui, oui, oui.
Ils ont une responsabilité importante.
C'est ça.
Si ça marche, si on s'occupe bien de ce patient, parce que nous sommes là, quoi. Enfin, il y a cette relation assez.
Alors, vous le lisez comme ça, oui, mais non. Je pense que l'infirmière en question, c'est l'inverse. C'est-à-dire, ça dépend de nous. S'il y a un problème, c'est ma faute.
Ah, d'accord.
Oui, c'est plutôt ça.
C'est plutôt comme ça qu'elle...
C'est plutôt... Parce qu'en fait, là, on parle de l'infirmière de soins intensifs de traumatologie. Et elle dit ça dans un contexte où elle explique qu'elle travaille de nuit et que de nuit, les médecins ne sont pas là. Bien sûr, il y a une astreinte, ils peuvent appeler un médecin. Mais sinon, ils sont seuls avec les patients en tête à tête, en quelque sorte. Et donc, s'il y a une défaillance qu'elle n'arrive pas à détecter, elle, personne ne la verra. Donc, ça
donc,
repose sur
attentive.
Elle. Ouais.
Et d'ailleurs, on
c'est
parle
une responsabilité importante.
Du déroulé, là, donc c'est en 2021, et bien entendu, le ratio infirmier pour des lits, quoi. On parle d'une infirmière pour quatre lits.
Oui, ça a évolué récemment.
Décret, ça a évolué, c'est ce qui se fait en Europe. Est-ce qu'on est en avance ou pas? Est-ce que vous avez une idée de ce qui se fait?
C'est très bien. Enfin, pour avoir échangé à ce propos avec des infirmières lituaniennes, le ratio n'est pas du tout de
donc,
cette proportion.
La France, pourrait-on dire, là,
autant
on peut être critique pour d'autres secteurs.
Oui.
Pour
alors,
ce secteur-là, c'est...
Là, en fait, c'était passé de 5 patients avant 2021
à 4 patients.
Donc, c'est tout à fait bien, en tout cas, d'après ce que j'en sais.
Alors, pour le premier cas, comment ça s'est passé? Quelles sont les conclusions? Parce que c'est important de revenir à ce soin...
Oui.
De traumatologie, alors c'est particulier, c'est la traumatologie, ça peut être l'accident de la route,
c'est
des choses comme ça.
Hein. Là, c'est pareil, c'est les cas que j'évoquais tout à l'heure, accident de la route, accident domestique, pathologie qui dégrade et puis, en fait, toutes les fois où il y a un peu de traumatologie, je sais pas, un poignet cassé, un problème de hanche, plus une autre pathologie, là, on rentre dans les soins intensifs parce qu'il y a un risque de défaillance majeure. Donc, c'est quand même aussi des patients avec un risque vital. Et en fait, il y a plusieurs moments marquants dans cet entretien-là. Mais ce à quoi j'arrive, finalement, ce sur quoi je conclue, et c'est pour ça que ça s'appelle découvrir l'habitude, c'est que il y a la particularité de ce service, c'est que les patients ne sont pas sous sédation, justement, ils sont réveillés.
Ils sont réveillés.
Et donc, ils s'expriment beaucoup. Mais en même temps, comme il y a de la traumatologie, ils sont immobilisés sur leur lit. Donc, il faut s'imaginer, là aussi, être immobilisé sur son lit. Trois jours, une semaine, deux semaines, trois semaines.
Parfois, c'est
immobile.
Immobile, c'est parfois le plafond, quoi.
Oui, c'est ça.
On regarde le plafond.
Exactement. Alors, en plus, c'est un
service... Notre environnement est très réduit, là.
Voilà, c'est ça. Et alors, il y a cette immobilité, puis il y a le risque vital, qui quand même existe en permanence. Pour l'anecdote, l'infirmière me disait que le service était contre les blocs opératoires, ce qui fait qu'en raison de l'isolation particulière des murs, les téléphones portables ne pouvaient pas marcher.
Bien sûr.
Donc être immobilisé trois semaines sans téléphone
aujourd'hui.
Mais elle disait que pour compenser, ils avaient rendu gratuit la télévision.
Alors, mais vous dites quand même quelque chose qui est intéressant aussi dans cet entretien. Il y a trois termes, même si vous dites le temps, vous aviez démarré votre recherche sur le temps, mais là, le temps revient. Il y a trois termes, le temps, l'échange et le ressenti qui doivent être articulés quand même.
Oui,
donc
dans
la question
clinique.
Du temps, hein,
dans
le clinique.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Dans la clinique, en fait, elle a vraiment elle porte un double regard permanent sur les patients, un regard qui en même temps est dans cette recherche clinique de tout changement qui pourrait manifester en fait une défaillance du corps, et en même temps, elle se rend compte qu'elle doit aussi les regarder comme des personnes, c'est-à-dire ce ne sont pas que des corps, mais à travers cette surveillance, il faut qu'elle les voie à partir de leur existence, à partir des relations qu'ils ont avec leurs proches, leurs envies, leurs projets, etc. Mais donc l'habitude, elle se montre comme... parce que je lui ai parlé de ce que les patients pouvaient avoir dans leur chambre de personnel. Et donc, elle explique qu'ils peuvent avoir effectivement, par exemple, des photos, mais que ça, c'est pas très bien, d'après elle. C'est-à-dire que les photos, peut-être qu'au départ, ça leur semble être un soutien, mais en réalité, c'est très dur moralement d'avoir des photos de soi dans sa vie d'avant d'être confronté à ce qu'on est à ce moment-là, bloqué, immobile sur un lit, avec parfois la perte d'un membre, parfois une incapacité qui va être permanente. Et c'est très dur, moralement, de se confronter à ça. Et elle dit qu'en revanche, enfin, elle explique qu'en revanche, ce qui aide beaucoup les patients, c'est d'avoir des objets du quotidien. Avoir son rasoir, avoir sa couverture, son pyjama, même si on va pas se lever, même si on va pas bouger, ça sert beaucoup. Et puis, il y a un exemple qui est très intéressant, c'est boire sa tisane le soir, comme à la maison, en fait.
Comme à la maison.
C'est-à-dire, voilà, comme à la maison.
Essayer de retrouver des gestes du quotidien.
Exactement. Et en fait, dans ce quotidien-là, dans cette découverte d'habitude, ça rassure la personne, ça lui donne le sentiment que, c'est bien moi, je suis encore là. Ça lui fait se remémorer, en quelque sorte, qui elle est.
Et c'est particulier quand même la nuit, quoi, parce qu'il y a une angoisse de la nuit.
Exactement.
Pour les malades.
Oui. Exactement.
Et souvent, on dit, dans des soins très critiques, que souvent la mort arrive très tôt dans la matinée, quoi.
Oui.
On résiste dans la nuit et on est épuisé. Et malheureusement, le décès arrive très tôt, 5 heures du matin. Donc, il y a une angoisse de la nuit.
Oui.
Et là, elle est toute seule, l'infirmière. Il faut qu'elle gère aussi cette angoisse.
C'est ça. Il y a une particularité de la nuit qui est liée à la nuit elle-même, mais qui est aussi lié au fait que le service à ce moment-là est moins vivant, les proches ne peuvent pas rendre visite la nuit, c'est un petit peu compliqué, donc il y a aussi cette solitude-là de la nuit, rester réveillé avec des rythmes très particuliers, puisque comme je disais, il y a des prélèvements qui sont faits à des heures particulières, précises. Il y a un rythme aussi en fait de la vie dans un service hospitalier qui est imposé par l'extérieur, c'est-à-dire on ne mange pas quand on a faim. On ne va pas avoir accès à quoi que ce soit, on ne va pas faire sa toilette quand on le souhaite. Enfin, tout est rythmé par les contraintes du service de santé. Et ça, c'est assez difficile à vivre pour un patient, en plus immobilisé.
Ce sont des personnes qui ont beaucoup d'expérience, hein.
Toutes.
Toutes, 14 ans, 10 ans, 15 ans, 16 ans de réanimation. C'est aussi un choix, c'est-à-dire, nous souhaitons aller vers ce métier, quoi. Spécifique, quoi.
Souvent, elles ont commencé leur cas. Alors, je dis « elle », il n'y a qu'un seul homme.
Homme. Vous dites « elle », c'est un métier très féminisé.
Oui, tout à fait. Et en fait, elles ont souvent commencé par un autre service de santé. Ça arrive qu'elles aient une autre expérience. C'est beaucoup le cas pour la dernière, hein, pour le prélèvement d'organes. Mais souvent, ils ont eu une expérience de service de soins traditionnel et puis ils se sont décidés, pour de multiples raisons, à aller dans un service de soins critiques. sans savoir ce qu'ils allaient y découvrir, parce qu'en fait, le plus souvent, ils se sont intéressés aux services soins critiques en raison de la technique. C'est-à-dire que apprendre de nouvelles techniques, avoir de nouvelles connaissances et tout ça, c'est, il y a une espèce d'excitation là-dedans, d'intérêt.
Oui, augmenter ses compétences,
ouais,
pour
voilà,
tenir.
C'est ça. Et puis finalement, une fois qu'ils y sont et qu'ils ont appris tout ça, ils découvrent autre chose. C'est-à-dire, ils découvrent que derrière la technique, il y a les patients et qu'on ne peut pas oublier qu'ils existent.
Je vous propose une autre respiration et aller ailleurs. Allez, rapidement, partons. En Colombie, une chanson traditionnelle chez nos amis colombiens.
Sal de la cueva, guapa, sal de la cueva, guapa, 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 Anabacoa, Anabacoa, coa, coa, Anabacoa, coa, coa, Anabacoa, coa, coa, Anabacoa, coa, coa, arroz con picadillo, guapa, arroz con picadillo, guapa, 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 que viva, 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 que viva, 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 viva. Sal de la cueva, guapa, sal de la cueva,
guapa, 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 guapa,
Anabacoa, Anabacoa, coa, coa, Anabacoa, coa, coa, Anabacoa, coa, coa, Anabacoa, coa, coa. Avelina, rebúscate.
Esprit Occitanie, sentinelle d'humanité, toujours avec Flora Bastiani, philosophie du soin critique, penser la relation en réanimation, en soin intensif et dans le prélèvement d'organes. Allez, nous allons vers le deuxième cas, soigner pour le présent à venir, un cas en soin de service réanimation dès la première page. 111, première page, 111, en soin de réanimation. Tout le monde ne meurt pas. On annonce quand même que c'est pas des grandes joyeusetés, cette affaire.
Et oui, alors ce que vous lisez,
tout le monde ne meurt pas.
Ce que vous lisez, c'est un verbatim,
c'est-à-dire
la citation du soignant.
Du soignant, quoi. Ouais. Tout le monde ne meurt pas. Ça doit être terrible.
Oui, donc c'est-à-dire, on comprend que s'il dit tout le monde ne meurt pas, d'ailleurs c'est l'analyse que je fais après, c'est qu'il y a beaucoup de décès et qu'il est obligé de.
Là, on est
confronté à la mort. Il est obligé de dire ça. Finalement, notre travail, c'est pas que voir des patients mourir, c'est aussi penser à ce que va être leur existence dans l'avenir. Donc, lui, cet infirmier, il se pose la question à chaque soin. De quel va être l'impact de ce soin sur la qualité de vie de cette personne si elle survit. Donc, il y a beaucoup de si. Hein,
oui, tout à fait.
Donc, si elle sort de réanimation, quelle vie elle va trouver ensuite ? Quelle sera sa vie sexuelle, sa vie sociale, sa vie professionnelle ? Qu'est-ce qu'il aura ?
Mais il y a aussi une relation avec la famille.
Ah oui, avec les proches.
La famille, et là, le soignant parle beaucoup avec la famille.
Oui.
Et on dit également, ils veulent entendre, est-ce qu'il va mourir ou pas ?
Eh oui, c'est une grande question. Ouais.
C'est quand ? Combien de temps il lui reste ? Donc, c'est la famille est vraiment prise par la question du temps, quoi. Est-ce que ça va arriver maintenant ?
Oui. C'est un milieu très angoissant aussi pour tout le monde. Quand on dit qu'un proche est en réanimation, c'est quand même une expérience difficile. Et bien souvent, les proches... Alors là, l'entretien, c'était avant l'expérience du Covid.
Oui, 2018, dites l'entretien. Voilà.
Maintenant, on est revenu à des conditions à peu près semblables, c'est-à-dire que les proches peuvent rendre visite aux patients. Et ils sont donc dans les services et ils posent des questions. Et en fait, c'est une expérience de, là on pourrait dire, de suspension du temps. C'est-à-dire qu'on reste en attente, suspendu à l'état de ce proche qui est hospitalisé, en se disant, on ne sait pas s'il va vivre, on ne sait pas s'il va mourir. S'il survit, on ne sait pas dans quel état il sera non plus. Est-ce qu'il aura beaucoup perdu de son autonomie ? Qu'est-ce qu'on va devoir faire ? Et donc c'est très dur pour la famille de se projeter. Ils sont en attente et c'est pour ça qu'ils pressent souvent les soignants. Alors pas toujours au début, parce qu'au début ils sont vraiment dans l'espoir que la situation évolue favorablement. Mais après un moment, ils se désespèrent et ils pressent quand même les soignants d'avoir des réponses, c'est-à-dire à quoi doit-on se préparer ? Le problème, c'est un problème de la relation avec l'avenir à chaque fois.
Et donc on voit bien pour les soignants, il y a quand même une souffrance terrible. On est confronté régulièrement à la mort.
Oui.
Et donc, on dit qu'il faut familiariser l'environnement du patient. Mm-hmm. Donc, tout ce qui est autour du patient soulage également le soignant, quoi, en définitive. Le soignant doit être aussi... il faudrait prendre soin des soignants quoi, dans cette situation.
Ça, là, il n'y a pas de doute, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut prendre soin des soignants. C'est eux qui font un travail incroyable et extrêmement important puisqu'ils soignent quand même la vitalité. Et donc, il faudra en prendre soin, c'est sûr. Ben, c'est quand même aussi une question de qu'est-ce qu'on fait. Alors, c'est pas directement une question abordée là dans ce cas, mais qu'est-ce qu'on fait justement quand on est confronté à plusieurs décès dans la même semaine ? Est-ce qu'on peut en parler ?
Il y a des groupes de parole dans les...
Non,
pas du tout.
Pas en réanimation.
Pas en réanimation.
Non. Et ça manque, je pense, en fait. Mais ça n'existe pas pour l'instant.
Non, pour le moment, aucun chef de service.
Ouais, donc ça se fait de manière informelle.
Peut-être informelle. Ouais.
Oui, entre les soignants, beaucoup de moments pour se retrouver. Mais c'est vrai que c'est une question. Comment on vit en tant que soignant dans un service de réanimation au quotidien, avec toutes ces épreuves, en fait ? Parce qu'il y a le décès, mais il y a aussi... l'annonce du décès, l'annonce de la dégradation, l'annonce du décès, c'est quand même des moments très intenses pour les familles et pour les soignants qui, eux, ont soigné la personne pendant très longtemps. Enfin, ils se lient aussi avec cette famille, ils connaissent leur histoire. Voilà. Donc, c'est vraiment une épreuve aussi du quotidien.
Alors, le soin réanimation pédiatrique, alors là, c'est un chapitre très, très difficile parce que la relation, encore une fois, est très singulière. D'abord, il y a des enfants prématurés. Mm-hmm. Alors, quel type de relation le soignant peut-il avoir avec le prématuré ?
Alors là, l'infirmière, elle passe par les parents. C'est-à-dire... le parent ou les parents, selon qui est présent. En fait, elle se rend compte que ce qui compte, mais là encore une fois, c'est une question de relation à l'avenir. Quand même, si le temps n'est pas si annexe que ça dans cette question. En fait, l'enfant, au moment où il naît, il faut qu'il soit reconnu comme un enfant. Un enfant qui naît prématuré, qui se retrouve directement hospitalisé dans un service de réanimation, qui n'ouvre pas les yeux, qui va, enfin, potentiellement, il va pas avoir existé, c'est-à-dire entre guillemets, hein, il va être passé du moment de sa naissance prématurée à des soins très très lourds, rester dans un environnement hospitalier. Et finalement, il n'aura pas eu l'occasion de vivre sa vie au sein de sa famille, d'être intégré. Et le soin de cette infirmière consiste à faire vivre ça. C'est-à-dire, elle accompagne les parents dans une reconnaissance de leur enfant comme « c'est mon enfant, je suis son parent ». Et donc, ça inscrit cet enfant dans une histoire familiale, mais aussi dans des gestes de soins du quotidien. C'est-à-dire qu'elle accompagne les parents pour qu'ils puissent prendre leur enfant dans les bras. Mais c'est des enfants, donc là, on parle de grands prématurés, qui sont perfusés, qui sont sondés. Donc, il y a tout un dispositif médical hein, qui est directement dans leur corps. Et donc, il faut absolument que ces parents ils soient accompagnés parce que c'est très impressionnant comme situation. Et les amener à toucher leur enfant dans ces conditions, dans ces circonstances-là, c'est très compliqué.
C'est pour ça que vous parlez de juste relationnel.
Oui.
Ce terme juste, terme juste revient à plusieurs.
Oui.
La juste distance, le juste relationnel avec les parents, le juste geste qu'il faut faire parce qu'il est invasif, il est peut-être agressif même.
Oui.
Voilà, le terme juste, quoi.
Oui, tout à fait.
Avec les parents, hein. Voilà, il faut accompagner avec les parents, mais de façon juste.
En fait, la
question de la justesse, la juste mesure, pourrait-on dire même.
C'est ça. Alors, j'y ai beaucoup réfléchi parce qu'on pourrait penser que c'est une manière de ne pas trop s'impliquer. Juste pour soi-même. Il y a plusieurs manières d'entendre hein, ce terme. C'est-à-dire, ça peut être juste pour moi. Je ne m'implique pas trop de manière à ne pas être trop marquée par cette situation et par ce que vit cette famille. Mais en réalité, dans le discours de cette infirmière, c'est juste pour eux. C'est pas juste pour elle. Finalement, c'est quelque chose qu'ils ont en commun, hein, ces quatre infirmiers, c'est que ils s'adaptent à la personne qu'ils soignent, aux proches qu'ils accompagnent. Ils se placent en second, finalement, à chaque fois. Et donc, ce juste relationnel, c'est une manière d'entrer en relation qui est complètement sur mesure, qui est à la mesure de ce qu'on voit chez l'autre.
Et le dernier cas, pour moi, c'est assez étrange, hein, je vous le dis, accompagner le passage, un cas de soins, dans la coordination de prélèvement d'organes ou de tissus, bien entendu. Alors là, oui, la différence, déjà, il faut, sur les concepts, le défunt et le cadavre, mais comment peut-il être encore sujet, quoi?
Est-ce que
c'est un sujet pour les
philosophes? C'est toute la question. En fait, c'est une des questions du livre, que ce soit la personne qui est dans un coma profond ou la personne qui est défunte. Est-ce que c'est encore un sujet? En principe, non. Pour la philosophie, ce sont pas des sujets. Parce que, au sens de la phénoménologie, ils ne perçoivent pas, ils ne s'expriment pas, ils n'ont pas accès au temps, ils ne construisent pas un monde, ils ne manipulent pas d'objets. Donc, ce n'est pas des sujets. Autant le défunt que la personne dans le coma. Mais finalement, ce qui les rend sujets, c'est le dialogue qui s'ouvre avec ces infirmiers. C'est-à-dire que ces infirmiers... Alors, quand je parle de dialogue, ce n'est pas un dialogue effectif, pas forcément. Pour le cas dont vous parlez, c'est le cas. C'est-à-dire... L'infirmière, elle s'adresse au défunt au moment où elle le rencontre. Elle considère que c'est une forme de rencontre. Et en fait, c'est pas seulement ça, c'est pas seulement à travers les mots, mais c'est aussi à travers les gestes. C'est-à-dire, c'est la question du respect qu'on peut avoir pour la personne qu'on soigne. Et là, en l'occurrence, elle considère qu'elle soigne ce défunt. C'est-à-dire qu'au moment où elle le rencontre pour faire les prélèvements biologiques, pour prendre ses mesures, par exemple, parce que c'est des données nécessaires en fait, à l'agence de la biomédecine qui va ordonner la possibilité des greffes par la suite. C'est-à-dire...
Et puis ça va très vite.
Oui.
Parce que justement, ça va à l'agence, il y a une liste de personnes qui sont en attente d'organes, j'imagine, un rein, un cœur, les poumons. Il faut que ça aille vite, quoi. Donc, établir une relation et en même temps une sorte d'accélération, parce qu'il faut prélever, et puis ensuite, ça voyage dans la région. Ça voyage dans la région ou ça peut...
De la région. Ah, non, c'est national.
C'est national, quoi. On peut recevoir un rein... On est à Paris, alors on va vous opérer à Toulouse, quoi, quelque chose comme ça, quoi. Ça peut aller très très vite, quoi.
En fait,
relation là encore une fois très singulière.
Oui, très particulier parce que elle commence. En fait, c'est donc ces métiers de la coordination. Je suis très contente d'avoir pu mener cette analyse et qu'elle soit parue dans ce livre parce que ce sont des métiers très peu connus. Des soignants eux-mêmes, d'ailleurs, parce qu'on sait que c'est la coordination du prélèvement qui s'occupe d'aborder cette question avec les familles. Les soignants les voient venir dans les services quand la question se pose. Mais on se rend pas compte de tout ce que fait cette soignante, enfin, de tout ce que font les soignants de la coordination, parce que non seulement c'est eux qui rencontrent la famille pour poser la question du prélèvement et qui doivent entendre... leur décision, les amener à prendre une décision, déjà, c'est tout un travail. Car en même temps, vous l'avez dit, il y a une forme d'urgence, mais il faut aussi laisser à cette famille le temps de comprendre que leur proche est décédé, ce qui ne peut pas se faire immédiatement, il faut quand même du temps. Et ensuite, le temps aussi d'arriver à une décision, d'arriver à penser, est-ce que mon proche aurait... souhaiter ou non donner ses organes, est-ce que c'est le respecter que de prendre cette décision ? Donc, elle participe à tout ce cheminement de la famille avec eux, en dialogue avec eux constant. Et ensuite, elle s'occupe du défunt lui-même, c'est-à-dire donc de son corps, des mesures, comme j'ai dit tout à l'heure. Ensuite, après ça, quand il y a un don d'organes, Elle s'occupe d'organiser la venue de toutes les équipes de soins qui vont prélever. Voilà. C'est-à-dire que ça va de la réservation du bloc opératoire à la réservation d'un taxi. Enfin, tout ça, c'est elle qui le coordonne. On parle vraiment de coordination au sens plein. Et puis, quand tous les organes ont été prélevés, que la procédure a été faite, qu'elle a aussi à sa charge de s'occuper, de préparer le bain, par exemple, dans lequel les organes vont être conservés, l'étiquetage des boîtes, etc. Enfin, c'est une procédure qui est à la fois technique et des procédures de suivi, l'étiquetage. Et quand tout ça est terminé, c'est elle aussi qui fait la toilette mortuaire.
Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, elle s'occupe, il y a le soin de ce mortuaire. Et
c'est ça.
Elle prend un soin tout particulier à bien le faire avec grande humanité, quoi. Elle explique ça.
C'est vraiment pour elle une question de dignité. C'est-à-dire, par exemple, je ne sais plus si je l'ai analysé, si c'est dans l'analyse. En tout cas, par exemple, elle dit que le défunt, elle pose sa tête sur un drap qui est enroulé.
Tout à fait. Oui, vous le dites là, oui.
Ah oui, c'est vrai.
Vous le dites, en fait,
pour elle, c'est vraiment une question de dignité parce qu'il ne faut pas que sa tête parte en arrière comme si on n'avait pas de respect particulier pour lui, en fait.
D'ailleurs, il y a le chapitre sur la page 236, c'est-à-dire « l'homme mort comme vivant ».
Oui.
Voilà, l'homme mort comme vivant, il y a quand même des gestes.
Oui.
C'est ce qui est en fait la question de la dignité humaine, quoi.
Oui. Alors elle lui adresse des paroles. Et puis elle explique que quand elle le découvre, par exemple, pour le mesurer, elle s'excuse de le faire et puis elle le recouvre. Vraiment, elle le soigne comme si c'était un patient vivant, en effet.
Très bel ouvrage, philosophie du soin critique. C'est très intéressant que les philosophes s'intéressent aux soins. Il faut continuer. Et est-ce qu'il y a un prochain livre en préparation, Madame Bastiani ?
Là, en ce moment, alors j'ai pas encore commencé à écrire autre chose, mais en tout cas, j'ai un projet qui est spécifique au prélèvement d'organes que je commence en 2025.
Donc, on vous accueillera, bien entendu. Alors, je rappelle pour nos éditeurs, philosophie du soin critique, penser la relation à réanimation, en soin intensif et dans les prélèvements d'organes. Le cercle herméneutique, très 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 beau, hein, le soutien de l'université Jean Jaurès. Et puis j'ai découvert que dans le cercle herméneutique, vous avez l'aide, on pourrait te dire le soutien de la librairie philosophique Vrin.
Ah oui, oui. Alors, c'est Vrin qui fait Vrin la distribution.
En,
ouais,
en philosophie, je me souviens, étudiant, en Vrin, c'était ouais. ce qui se faisait de mieux dans les éditions. Mais j'ai vu également que dans le cercle herméneutique, il y avait Vincent Citeau.
Mm-hmm. Voilà,
que j'ai rencontré il y a quelques années, qui avait fait également une très très belle thèse. Il intervenait en classe préparatoire, comme quoi les philosophes se retrouvent toujours.
Ouais.
Y compris autour du micro à Esprit Occitanie, sentinelle d'humanité. Merci, à très bientôt, Madame Bastiani.
Merci beaucoup.
Au revoir.